Nuit. Salut auditeurs, auditrices de Romandie, de Suisse et de tout partout où les décodeurs peuvent être rattrapés. On sait bien qu'aujourd'hui, hein, c'est comme ça. Peuvent être rattrapés et vous pouvez aussi attraper les décodeurs. Et ça va extrêmement loin. Et concernant nous, cette semaine, géographiquement, ce lundi, je salue plus spécialement les Zotzets, les Zotzettes, puisque, oui, nous voilà en pays fribourgeois, à Villars-sur-Glâne, pour être précis. Je m'arrête sur ce terme de Zotzets, avec deux Z. Vous savez d'où ça vient? Je m'adresse notamment aux décodeurs, là.
Zotzets.
Les Zotzets. Bah écoutez,
un habit traditionnel?
Non, pas du tout.
Un godet? Non.
On peut déjà gagner un point, sinon.
Non, vous gagnez rien du tout. Vous gagnez. Non, vous gagnez rien, puis vous perdez rien non plus. Bon. Donc c'est ça qui compte, quoi. Non, Zotzets, en fait, ça vient d'une forme patoise du prénom Joseph, jadis très répandu dans le canton de Fribourg. J'aimerais savoir s'il y a un Joseph dans la salle aujourd'hui.
Oh, eh bien, bah, sortez, il y a des Josephs, j'aimerais qu'ils sortent.
C'est ça, il me semble. En tout cas, voilà. Et alors, nous voici dans la salle Canisius du domaine de la Dame de la Route. C'est beau, ça.
On établissement.
Oui, oui, c'est vrai. Il faudrait mettre un petit peu d'accent, effectivement. Alors, c'est un établissement para-hôtel. Si vous voulez, avec des chambres, un restaurant, des salles de séminaire, un parc, un jardin, maraîcher aussi d'ailleurs. Donc tout un espace absolument assez incroyable et assez beau, vraiment tout près de la ville de Fribourg. Ce domaine se trouve sur la Via Jacobi. Notez bien, hein, parce qu'on va en parler de cette Via Jacobi.
Est-ce qu'il y a un Jacobi dans la salle qui se lève?
Un Jacques, alors peut-être là. Alors, avant d'aller plus loin sur cette Via Jacobi, je vous présente les beaux esprits décodeurs de cette semaine. Vous avez déjà entendu quelques voix, mesdames et messieurs. Il y a Kaya Gunner.
Good morning. Ouais.
Pascal Vincent.
Et bonjour. Ouais.
Laura Chénia.
Bonjour.
Et Marc Donnet-Monnet.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
C'est plaisir de vous revoir
vous êtes...
cette semaine. Et Laurence Bizan. Pour sa toute dernière semaine au Decoder.
Ouais, t'arrêtes maintenant.
On arrête maintenant.
Ça t'arrête. Alors, ils et elles vont tenter de faire marcher leur invité. Ah, elle est bonne celle-là, vraiment. C'est assez malin parce que la marche, justement, c'est son truc, c'est son dada, c'est son credo. Ça fait des années. Et puis, plus franchement, depuis 2020, presque en plein temps, en marche, randonnée, etc. Elle est monitrice de randonnée, voilà. Ça, c'est un titre assez intéressant, vous connaissez peut-être pas. Accompagnatrice pèlerine aussi. Et quand on parle pèlerin et pèlerine, il n'est pas incongru de penser à ce célèbre ou ces célèbres chemins de Compostelle. Chemin Saint-Jacques de Compostelle. Alors, on verra ce qu'en dit notre invité, experte en la matière, concernant tous les chemins qu'il peut y avoir, et notamment sur la Via Jacobi. Ça, c'est le tronçon suisse du chemin de Compostelle. Voilà, on va parler de tout ça. Elle est donc monitrice de randonnée. Et j'ajouterai encore, mesdames et messieurs, qu'elle est présidente de l'association des Amis du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est pour la première fois une femme qui est dans ce poste. On le souligne. Nous accueillons Béatrice Béguin.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir. Bonjour.
Oui, vous êtes aussi, voilà, avec les décodeurs, on est des fois le soir, des fois le matin, des fois... Non, mais c'est vrai, donc il n'y a pas de problème. Vous allez bien?
Ça va bien.
Ça va bien, voilà. Alors, accompagnatrice, monitrice, comment est-ce que vous vous présentez? Marcheuse, randonneuse?
Alors, oui, accompagnatrice de randonnée, et puis, pour mon propre plaisir, marcheuse à plein temps.
Alors vous faites un petit peu les deux, c'est vrai. Guide de rando peut-être aussi. La marche va donc faufiler cette semaine et notamment le parcours Via Jacobi. Via Jacobi 23, c'est un événement organisé par l'association des Amis
du chemin de Saint-Jacques.
Du chemin de Saint-Jacques, exactement, que vous présidez donc, Béatrice Béguin. Via Jacobi 23 et chacune peut suivre un morceau du tronçon. Il a débuté il y a quelques jours, ça commençait le 3 juin, et ça va se terminer après 21 étapes, le 23 à Genève.
Exactement. D'accord.
Alors, on peut se joindre au parcours en cours de route. Hein.
Absolument.
Il y a toutes les étapes et tout, vous allez, je vous donne tout de suite le site www.viajacobi4.ch, 4 comme le chiffre, hein, simplement.
Et ravitaillement, c'est où, juste avant, si peut...
C'est tout le long du chemin, c'est tout le long du chemin, on aura l'occasion de parler de tout ça.
Pour un ami.
Ils ont tout de suite peur, oui, c'est pour un ami. Marcher, c'est pas grave, mais alors, est-ce qu'on mange?
Ouais, il y en a qui s'en occupent.
Bon, les décodeurs et décodeuses vont aussi tenter de vous faire marcher, hein, je l'ai dit en début, Béatrice Béguin, d'une façon ou l'autre, c'est clair, une autre façon en fait. Une jolie manière d'avancer dans le temps en jouant avec le sourire.
C'est un joli programme.
Ouais, parfait, alors je vous souhaite la bienvenue parmi nous.
Merci.
La semaine, côté jeu, commence en musique. Yeah. C'est pas plus mal finalement, effectivement. En musique et en anglais, enfin ça on verra hein, si c'est vraiment en anglais. Béatrice Béguin, vous aurez droit à 4 versions décodeuses de ce titre de Simon & Garfunkel, Sound of Silence, que vous connaissez bien sûr. C'est aller. Une jolie chanson, j'espère que vous n'allez pas trop l'égratigner.
Nier. N'est-ce pas, Magaroto?
Oui, pour les accompagner, vous changez le bon couplet donc. Hein. Pour les accompagner, Olivier Magaroto. Oui. Et pour le premier, première voix, Kaya Gunnar.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Cause a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Marc Donnet-Monet.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because you hear visions, thank you. Because you are a friend of mine, of you. And the vision and the still in my grand still the wane
within the sound of silence.
Good morning, I am Jean Christophe. I am your train manager. I will make trop in your ticket. Because it is my job en fait. Thank you, do not téléphoner dans le wagon. Déconne pas.
Within the sound of silence.
Good morning everybody, welcome to the class of English. Charlotte, you put away your phone now. You range your phone maintenant. Stephen, don't mush you in the cheveux. Oh Florence, open your book en silence.
Within the sound of silence.
Alors, la mélodie était là. Évidemment, ils ont fait des choses un peu croquignoles, n'est-ce pas, Béatrice Béguin, avec les paroles. Vous savez que cette chanson de Simon & Garfunkel fait partie des 500 plus grandes chansons de tous les temps d'après le magazine Rolling Stone.
C'est quoi les 499 autres?
Non, je peux pas vous dire. Je peux vous dire le premier, c'est Bob Dylan.
Ah, forcé.
Like Rolling Stone. Deuxième, The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Et la troisième, c'est pas les Beatles, mais c'est John Lennon. Imagine. Hey. Imagine.
Il y a un côté adjectif quand même dans ce choix. Parce que moi, j'aurais mis « Salut les amoureux » de Joe Dassin en premier.
Écoute, voilà. Alors. Puis bon, je pense voilà. Que ça change hein, quand même un petit peu. Mais enfin, voilà. Paul Simon a écrit cette chanson « Sound of Silence » après l'assassinat du président John F. Kennedy en 1964. Et c'est une chanson qui parle en fait du manque de communication entre les hommes. C'est marrant ça, hein. On est en 1964. Eh ben, on a l'impression qu'il y a des trucs qui perdurent. Bon, mais on en revient à 2023. On est donc le 12 juin. Béatrice Béguin, va marquer son premier point ou pas en nous disant qui chantait le bon couplet.
Pas facile.
Donc, j'hésite entre Kaya et Marc, mais je prendrai Kaya.
Yes! C'est bien parti! Bravo! Marc, il a fait un peu du yogourt, hein, je crois bien.
Ouais, c'est un peu du yogourt.
Et puis, on salue la présence de Jean-Christophe, train manager, quoi, qui est passé par le texte de Pascal Vincent, que j'aime bien, quoi, avec ses petits trous. Bon, c'est bien parti. Premier jeu, premier point. Olé.
Hey!
Lady Codor vous présente une carte ici, Béatrice Béguin, une carte coroplète. Une carte coroplète. Oui, non, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ce mot, donc on va voir. On va découvrir avec Marc Donne-Monnet.
Nous sommes donc à Villars-sur-Glâne cette semaine, oui. Compagnie de Béatrice Béguin. J'adore votre nom de famille, Béguin. Moi, quand j'entends Béguin, je pense à mon pépé qui disait « Oh là, il y a eu le Béguin pour cette fille hein ». C'est un peu vieux comme mot, ça ne s'utilise plus tellement, mais c'était le mot qu'on utilisait. Moi, je n'ai jamais entendu mon pépé dire dans les années 80 « Il a eu un crush, là hein ». Non, il disait Béguin, c'est joli Béguin, avoir le Béguin pour quelqu'un. C'est un nom qui est romantique, ça fait rêver. C'est un nom généreux comme Donne-Monnet. Vous voyez, Donne-Monnet, on donne de la monnaie, c'est généreux. Ça dit beaucoup de la personne. Hein. C'est pas par hasard qu'on porte ce genre de nom. Un nom est toujours signifiant. Je pense par exemple à une joueuse de tennis suisse dans les années 80 que j'adorais qui s'appelait Christiane Jolissin.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
J'ai beaucoup réfléchi à l'époque ce que ça veut dire, ce nom. Jolissin. J'ai passé des heures dans ma chambre d'adolescent à me dire, tiens, Jolissin, qu'est-ce que ça m'évoque? C'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au tennis. Jolissin. Parce que Guntart ou Lasek, ça m'avait pas... Voilà. Jolissin, je trouve qu'il y a une magie dans le nom. Bref, donc très heureux de recevoir cette semaine Béatrice Béguin. La semaine prochaine, nous recevons Joséphine Flirt. Hein. Et au mois d'août, Marie-Louise Bluette. Oh, chloropète, merci pour ton... Un chloropète, alors c'est moins joli, c'est l'autre nom pour cafard. Hein, c'est le nom scientifique du cafard ou de la blatte. Mais c'est plus joli chloroplète que voilà, cafard.
Merci monsieur, mais c'est la première réponse. La deuxième arrive par la voix de Laura Chénia.
C'est une carte qui n'indique aucun lieu, mais c'est une carte du temps. Voilà, mais pas le temps qu'on a de la chance avec le temps. Non, le temps, celui que pour ceux dont il est bien passé, aime le passé à parler de celui qui fait dehors l'autre temps. C'est clair, hein? Oui. Quand ton pote te dit « Hey, check ta carte coroplète, mardi après, on va se faire une dégustation de pinard », tu check quoi? Ben, si ton pote va bien, surtout. Ben, parce que quand même, une dégustation de pinard un mardi après-midi... C'est un peu un truc d'alcoolo, hein. Non, et puis le mardi, c'est pas un jour à déguster quoi que ce soit. Non, c'est trop nul. Le mardi, c'est un jour nul. C'est un jour, je sais pas, où on attend que ça passe, quoi.
Oh, mais le pauvre.
Mais si, c'est le deuxième, c'est le petit frère qui fait la même chose que l'aîné, mais en moins bien. On a déjà vu. Le mardi, c'est un lundi sans charisme. C'est le pire jour. On déguste pas, on boit un mardi pour oublier. On boit des shots d'alcool ménager. Le dessert, c'est un pot de gel pour caclon à fondu à la cuillère devant Koh-Lanta. C'est ça le mardi. On se bourre la gueule à coups de mon chéri, hein Marc?
À fond.
Oui, on en est là. Parce que c'est ça le mardi. On va chez le dentiste. C'est ça les activités du mardi. On a comité, séance communale, natation dans une piscine froide avec des sparadraps qui flottent. Mardi, c'est étoile de mer. On n'en veut pas du mardi. C'est moche. Vous savez... On a toute cette copine qui veut nous caser avec le cousin de son mec. Alors, par politesse, un jour, on était en train d'ovuler, on a accepté le rencard. Et là, en fait, tu te rends compte que ce mec, c'est un foutu mardi, en fait. Et le mardi, c'est comme un tatouage raté ou une dent de sagesse. On regrette quand c'est là. Il sert à rien, il faudrait l'arracher le mardi, mais le mardi, ça s'infecte, c'est certain. Mais là, on est lundi. Le lundi... Au moins, il a la prestance d'un commencement. Regardez-nous, là, hein. On s'élance dans le lundi, on a de l'élan, on retient son souffle. On saute dans une nouvelle semaine comme dans le vide, au bout d'un élastique. Le mardi, c'est le moment où on doit nous remonter, la tête en bas, le sang plein la tronche. On ressemble à une inflammation. Non, il a une chanson, le lundi, au soleil.
Oui, bien sûr, oui, c'est vrai.
Alors qu'on ne fait pas les tubes avec des mardis. Alors en attendant demain, on déguste ce jour comme l'ouverture d'un opéra. Parce que Béatrice, vous aimez pas tant l'opéra, mais parce que l'opéra c'est long à partir de la deuxième chanson. Mais là c'est lundi, c'est beau et on ferme sa carte coroplète, donc son agenda, pour mieux oublier que demain est déjà demain.
Pour l'instant, profitons du lundi, écoutons Pascal Vincent sur ce.
Non, moi j'ai exactement la même
la
chose
carte
que Laura.
Coroplète. Ah, oui. Mais répétez voir.
Non. Bon, alors je vais tenter de faire quelque chose d'autre dans ce cas-là. Non, une carte coroplète est une carte géographique qui prouve une fois pour toutes que la Terre est plate.
Il se lève.
Cette blague a obtenu la médaille d'or du gag plat de Vannes, en Bretagne. Plus précisément, c'est une carte géographique thématique. sur laquelle des couleurs différentes, plus ou moins dégradées, sont visibles en fonction de mesures, de statistiques. Alors, ça peut être un tas de choses. Ça peut être la densité d'habitants au mètre carré. Ça peut être les zones qui restent pro-Suisse allemande après l'invasion de la Suisse romande par la Suisse... les zones pro-russes en Ukraine après la... je confonds tout le temps.
Oui.
Les parties du globe où l'on trouve le plus de panaris par habitant. Celles où on aime le plus le chorizo et les décodeurs, etc., etc., etc. On peut tout savoir avec les cartes chloropètes. C'est ça qui est bien. Et puis la couleur, plus la couleur est dense, plus le pourcentage, bien entendu, du thème mesuré est important. Ça a été inventé en 1828 par le baron Charles Dupin. J'aime bien insister sur le 1828, ça fait le type qui s'y connaît, alors qu'en fait je m'en fous. Donc baron Charles Dupin, mort en 1873, et qui n'a de près ou de rien, absolument rien à voir avec Ricazaray.
Ça, on se fait douter,
peut-être. Je sais que c'est une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux ou à la pause café au boulot. Mais Charles Dupin, l'inventeur des cartes chloropètes, il a quelque chose à voir avec Ricazaray ? Eh bien non, non, la réponse est non. Enfin, jusqu'à preuve du contraire.
Voilà.
Si durant la semaine,
on verra.
Je reçois des messages qui tentent
à... On en parlera.
Je n'hésiterai pas à intervenir.
Je vous remercie, mon cher. Ça fait la troisième réponse. La quatrième arrive. C'est marrant parce que chloropète, c'est pas très, ça ne fait pas très sérieux. Hein. Alors, ça, c'est une carte chloropète, donc cahier Guinner.
C'est chloro ou coro?
Chloropète. Non, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, c'est pas grave. Moi, je
ah,
peux...
coro, oui, j'ai mis un L. Mais... Je ferais chloropète,
c'était un coro. Vous avez tous les droits, Laurence.
Ah, bah,
donc, la carte chloroplète, c'est plète, hein, donc ok. La CC, comme on l'appelle, est une carte sans cesse mise à jour et qui répertorie les populations du désormais célèbre Aedes albopictus, l'autre nom du moustique tigre, originaire d'Asie du Sud-Est, et qui s'est désormais adapté à nos environnements et qui profite d'une multitude de récipients pour y pondre ses œufs. D'après cette carte, il est aujourd'hui implanté dans au moins 71 départements sur les 100 que compte la France. Même si une carte du moustique existe, ça ne l'empêche pas d'être vecteur de virus comme ceux de la dengue, quand il tire la dengue, du chikungunya et du zika. Voilà. Il faut savoir que le moustique tigre est le premier insecte à utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir piquer l'être humain sans se faire piquer. Je dis se faire piquer, j'aurais tout aussi bien pu dire se faire éclater la gueule, exploser le sac à sang. Mais je garde piquer pour être dans le contexte, bien que je préfère la deuxième formule. Donc le moustique tigre s'est mis à l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore trop comment. Il est très très futé, même très très affûté. Les chercheurs, les scientifiques du monde entier sont en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais ils ont un temps de retard par rapport au moustique tigre. Donc pour piquer et rester en vie, ChatGPT lui a élaboré une solution qui est d'approcher ses victimes sans faire ce fameux son qui caractérise l'approche du moustique et qui est reconnaissable en pleine nuit où il fait tout noir par ce...
Affreux. C'est exactement ça.
Vous voyez ce son près de l'oreille qu'on a.
La feuille est éclatée. Ouais.
Donc ChatGPT lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il fasse ce son. Et le moustique a très vite et très bien intégré les consignes de l'intelligence du coup. Il ne fait plus aucun son quand il vient vous sucer pendant votre sommeil.
C'est moche. Il chante plus, quoi.
Mais ouais. Il paraît que suite au conseil du moustique tigre, le frelon asiatique serait lui aussi en train de consulter ChatGPT pour venir troubler nos nuits, nos journées. Un conseil maison avant de consulter l'intelligence artificielle pour trouver une solution. Munissez-vous d'une bonne tablette.
Paire de claques, ouais, tapette. Ok, on va retirer le conseil. Alors, qu'est-ce qu'une carte chloroplète ? Voilà, il ne faut pas que je mette le L à l'envers, Béatrice Béguin. Alors, pour Marc Donnet-Monnet, la carte chloroplète, en fait, c'est le nom d'un cafard. C'est bizarre ce nom pour un cafard, la carte, mais ça ne fait rien. Pour Laura Chénia, carte chloroplète.
Des jugements, alors que c'est sa dernière semaine, moi je m'écraserais à sa place.
C'est une sorte d'agenda, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ouais.
Pour Pascal Vincent, carte du temps, on a une carte géographique, thématique, en fonction de statistiques de mesure, enfin, etc., etc., hein, pour savoir.
Avec des couleurs.
Avec des couleurs, pour donner une idée de où il y a le plus de ci, où il y a
mais
le moins de ça.
C'est pas nous qu'on doit colorier. C'est
non.
Déjà colorié.
C'est fait par les machines ou par un spécialiste. En tout cas, Cahier Guinet, enfin, nous dit que la carte chloroplète, c'est la carte d'implantation du moustique tigre par
ça
ici.
Ça n'a rien à voir avec Ricazaray.
Ben non plus. Béatrice,
c'est vrai ?
Béga.
Pas, toujours pas.
Alors moi, j'aime bien l'idée de la carte avec les couleurs, donc je vais prendre Pascal.
C'est des conneries.
Quelle bonne idée.
C'est vrai.
Une carte Choroplète, ça s'écrit C-H-O-R-O-P-L-E, accent grave T-E, et Choroplète, Choroplète si vous voulez, mais ça vient du grec ancien. Chora, ça veut dire le lieu.
Un grand nombre.
Et puis Plétos, oui, un grand nombre, effectivement. Donc une carte Choroplète est une carte géographique thématique où les régions sont colorées en fonction d'une mesure statistique, par exemple la densité de la population, le revenu par habitant, la culture des céréales, enfin, etc. Le dégradé des couleurs indique le pourcentage plus ou moins grand du thème mesuré. Et il l'a dit, hein, Pascal Vincent, c'est vrai que ça date de 1828, l'invention du baron Charles Pupin. Voilà, s'il pense
j'ai
pas
une
qu'on
culture
va parler
générale, je sais tout.
Bien, c'est bien parti, Béatrice Béguin. Deuxième jeu, deuxième point. Hein, c'est pas mal du tout. Et avant de passer à la suite, on va écouter Roxane. Vous la connaissez peut-être, peut-être pas. C'est une genevoise. Elle a tout juste 22 ans, nous dit Willy Dezelu, notre programmateur musical. Il marque même que c'est un talent à suivre. C'est vrai. Elle chante Gone with the Wind.
You said that we were always gonna last, but our love is gone with the wind. But it's alright, we'll have another one. Our love is gone with the wind. I'll admit, I'm in love with the drama. You believe nothing's real but the karma. Congratulations for my mind, you made it feel like fire. I would have loved for you to fit me a glass of water. Congratulations for the time that we spent together. Round of applause on the stage, or by law the curtain falls. You said that. Word lies. How can I start again? My body is wide open. Congratulations for my love. You made it feel so special. I used to beg for someone to get me out of this. Congratulations for the time you spent wasting mine. Bow down and pause. In the name of our love, there's nothing.
Béatrice Béguin, vous pouvez ici lancer un défi aux décodeurs et décodeuses, le premier de cette semaine. Vous en aurez un par jour, donc profitez bien.
Alors, on est ici pour parler notamment de la Via Jacobi 23, donc, qui est en cours. Et ce lundi 12 juin, l'étape commence à Brienne-Suillère, où l'Association des Amis du Chemin de Saint-Jacques a une auberge pour les pèlerins.
C'est où, Brienne-Suillère?
Brienne-Suillère, c'est dans le canton de Berne.
Ah ouais, non, alors je ne connais pas.
Une cinquantaine de bénévoles qui s'y relaient pour accueillir les pèlerines et les pèlerins pour la nuit, et ils leur préparent également le repas du soir et le petit déjeuner. Ce petit déjeuner est plein de bonnes choses, notamment des confitures maison, mais parmi ces bonnes choses, il y a une spécialité locale.
Ah, laquelle? Allez.
La damascine. Ah non, c'est...
Ouh là 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 là.
C'est un peu... Jura,
ouh là là,
pardon.
Ouh là là.
Oh, qu'est-ce que j'ai pas
tu,
dit
tu mets ta vie en péril, mon frère, Pascal. Non, qu'est-ce qu'il y a comme spécialité? C'est quoi, Oberland?
Oui.
C'est un truc... Bah, c'est de la confiture avec du fromage.
Non.
C'est un truc qui tasse bien pour le ce qui remplit le ventre.
Ça donne des forces.
C'est du rösti avec du Nutella par-dessus.
Non.
Est-ce que ça se prononce en français?
Alors, il faut un peu d'entraînement, mais ça,
quand
se
même. Ouais, donc
est-ce que ça se digère en français sans entraînement?
Mais alors.
Et c'est des féculents ou pas?
Non.
C'est sucré?
Non.
C'est une soupe?
Non.
Ah, c'est genre un truc d'orge dégueulasse, du bourguignon.
Est-ce que c'est salé? C'est salé.
C'est une chanson qui donne
c'est
des forces.
Salé, c'est salé.
Ah, c'est quand
bon.
Même à manger. C'est,
est-ce qu'il y a du rognon, fait des trucs comme ça là-dedans?
Non.
Des petits oignons?
Non.
Des trucs qui finissent en oignon?
C'est du fromage. Il y a du produit laitier.
Oui.
Alors. C'est un bir cher.
Alors, on est sur les produits laitiers.
Ah, voilà. Nos amis pour la vie.
Nous partons sur un produit laitier.
Inséré, un cahier.
Est-ce que c'est du chèvre?
Et donc,
en fait, c'est peut-être c'est beaucoup plus simple que ce que vous avez cherché, puisqu'on est sur un fromage. Et c'est un fromage qui s'appelle le Mutschli. Alors, c'est un fromage à pâte mi-dure qu'on trouve dans tout le canton de
Berne. Elle est en train de saliver quand elle parle.
Celui qui est servi à l'auberge vient d'un tout petit marché à la ferme qui est tout près. On n'a qu'à traverser la route et puis la rue et puis on le trouve. Et puis c'est vraiment un excellent fromage. On pourrait se relever la nuit pour lui.
Mais non.
Carrément. Et rappelez-nous son nom. La confiture. Son nom c'est quoi?
Ah, pas, si on le peut, Mutschli.
Le Mutschli.
Ah non, c'est une pâte molle alors. Le Mutschli.
Mi-dur.
Le Mutschli vous a mouché, décodeur et décodeuse. C'est son troisième point, défi gagné par Béatrice Béguin. Béatrice Béguin, qui, il y a un peu plus de 2 ans, en fait, vous avez décidé de tout lâcher, en fait, et notamment professionnellement. Vous travaillez à ce moment-là, si je ne m'abuse, au service de la culture de la ville de Lausanne.
Oui, c'est ça.
Voilà, exactement. Alors, tout plaqué, bim, pour vous adonner à plein temps à la marche. En gros, pour marcher et pour en vivre aussi.
Oui.
C'est possible, donc. Donc, voilà, on va voir un petit peu. Cette marche à pied que vous avez découvert à peu près 10 ans plus tôt.
C'est ça.
À quelle occasion?
C'est jamais marché.
Oui, mais démarche.
Il y a des gens qui ont du retard.
Il y a des gens qui ne prennent pas le train.
Non.
En comme fait, quoi, lourde. Ouais.
Oui. Il y a en 2012 à peu près, j'ai commencé à marcher sur le chemin de Saint-Jacques. J'avais très envie de faire le chemin de Saint-Jacques en entier, c'est-à-dire de partir depuis chez moi et de marcher jusqu'à Saint-Jacques en Espagne. Mais à ce moment-là, bah, j'avais encore mes enfants à la maison, j'avais un travail quasi à plein temps. Enfin, c'était difficile d'envisager de partir 3 mois.
Le nombre de choses qu'on peut pas faire quand on a des gammes.
C'est
tous les jours.
Et donc?
Donc je me suis dit que j'allais aller marcher sur le chemin suisse à coup de week-end ou de petites vacances. Et puis c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à Constance. Et j'ai marché pendant un week-end. Et puis là, je crois que j'ai attrapé le virus. Et je n'ai plus arrêté de marcher depuis là.
Tous les week-ends, bim, elle est où maman? Elle marche. et puis jusqu'à ce que vous preniez ces décisions. Alors, c'était juste avant le semi-confinement, donc c'est un petit peu mal tombé. Mais de vous dire, je ne fais plus que ça, quoi.
Oui,
je m'adonne à ça.
Est-ce que vous marchez sur l'eau aussi ça, vous
avez... Alors, j'aimerais bien. Moi, j'aime bien les bateaux, donc j'en profite.
Sur les bateaux, ok.
Bon, on n'a pas fini de parler de marche, hein. C'est vraiment juste le début. Il va y avoir les informations ici. Si jamais, mesdames et messieurs, vous savez que sur la Via Jacobi qui traverse la Suisse et qui fait partie des chemins de Compostelle, il y a des gens qui marchent depuis le 3 juin et ça va être jusqu'au 23. Allez voir sur le site viajacobi4.ch. Ça, c'est pour avoir toutes les étapes et puis savoir un peu comment ça se passe.
Pourquoi
des infos. Pourquoi 4? Parce que c'est la quatrième...
Parce que le chemin de Saint-Jacques, donc la Via Jacobi, est balisée du numéro 4.
Ah oui,
par
ça.
Suisse Mobile, quand on se promène et qu'on voit Suisse. Itinéraire numéro 4, c'est la Via Jacobi.
Okay. D'accord, c'est clair. Les infos, ça c'est pas mal clair aussi. Et on se retrouve à Villars-sur-Glâne, dans ce domaine de Notre-Dame-de-la-Route, juste après, tout à l'heure. Un rappel des titres tout de suite et vous retrouvez les décodeurs juste après. À tout à l'heure.
RTS Info, Margot Reguin.
La dénucléarisation mondiale s'est terminée. Le constat de l'Institut international de recherche sur la paix aujourd'hui. Plusieurs pays renforcent leurs arsenaux nucléaires. La Chine est en tête. Elle est suivie de l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. En Écosse, Nicola Sturgeon a passé 7 heures en garde à vue hier dans le cadre d'une enquête sur les finances de son parti. L'ex-dirigeante a ensuite été relâchée. Elle clame son innocence. Des perquisitions ont été menées notamment à son domicile. Les investigations ont débuté il y a 2 ans. Elles portent sur l'utilisation de dons collectés ces dernières années en vue d'organiser un nouveau référendum d'indépendance. En février dernier, Nicola Sturgeon a annoncé dans la surprise générale sa démission de son poste de première ministre. Elle expliquait manquer d'énergie. L'armée ukrainienne reprend d'anciens territoires. 3 villages ont été reconquis, annonce Kiev. Ils se trouvent dans la région de Donetsk, à l'est du pays. Et plus au sud, dans la région de Kherson, l'évacuation de civils se poursuit. La conséquence de la destruction partielle du barrage de Kharkovka la semaine dernière. 3 personnes ont été tuées et au moins 23 autres blessées par des tirs russes, ont déclaré les autorités locales. L'Agence internationale de l'énergie atomique se fait, elle, du souci pour la centrale de Zaporijia. Elle souhaite accéder au site où est mesuré le niveau de l'eau du réservoir utilisé pour refroidir les réacteurs afin d'y faire un point de situation. L'OTAN entame aujourd'hui son plus important exercice de manœuvre aérienne. Coordonné par l'Allemagne, il a pour but de montrer l'unité des membres face aux menaces potentielles de la Russie notamment. L'exercice durera 10 jours. Le Japon et la Suède, candidats à l'adhésion de l'Alliance, y participent. Et les vols spéciaux organisés pour expulser des requérants d'asile déboutés de Suisse se font souvent presque vides. Seules 115 personnes concernées sont montées à bord des 24 vols de l'an dernier. Des chiffres de la NZZ am Sonntag confirmés par le secrétariat d'État aux migrations hier. Il explique que des annulations à court terme peuvent être la cause de la faible utilisation des avions. Il est le premier à avoir décroché 23 titres du Grand Chelem et reprend sa place de numéro 1. Novak Djokovic a remporté Roland-Garros hier soir. Le Serbe s'est imposé face au Norvégien Casper Ruud. Record aussi pour Nino Schurter. Le Grison est le premier à avoir remporté 34 victoires de Coupe du Monde de mountain bike. Il l'a fait hier devant son public à Lenzerheide. Et sur la route, Stefan Küng est le premier maillon jaune du Tour de Suisse. Il a gagné hier à Einsilden le contre-la-montre devant Remco Evenepoel et Wout van Aert.
Les émissions de la nuit sur la première, les rendez-vous de la journée.
Domaine Notre-Dame de la Route. Vous êtes d'accord que c'est déjà tout un programme, c'est assez beau, on imagine plein de choses. Un lieu de séminaire, de meeting, de formation, il y a un restaurant, il y a des chambres, il y a un jardin, une terrasse. C'est tout près de Fribourg, nous sommes à Villars-sur-Glâne. Et cette semaine, 4 moustiques sont venus vous piquer les oreilles et l'esprit, mesdames et messieurs. Ces moustiques s'appellent Marc Donnet-Monnet, Laura Chénia, Kaya Guner et Pascal Vincent.
Bonjour. Ouais. Hello.
Leur invitée, elle, se pique d'être une randonneuse heureuse, Béatrice Béguin. Elle est la présidente aussi, la présidente de l'association des Amis du Chemin de Compostelle. C'est une association qui a quoi, 2000 membres, grosso modo?
À peu près 2000 membres.
Et donc, évidemment, bien en dehors de la Suisse, enfin voilà.
Non, uniquement Suisse.
Ah, ça, c'est uniquement la partie Suisse.
Uniquement la Suisse.
Vous confirmez, marcheuse heureuse?
Absolument.
Voilà, tout à fait. La marche, c'est la nature, ça peut être la montagne aussi. Est-ce que ça vous comble, Kaya Guner aussi?
Énormément. Énormément. J'aimerais bien qu'elle m'apprenne comment marcher parce que.
Mais comment marcher? Non, c'est ça. C'est évidemment pas forcément physique, hein. Donc on sait marcher un pied devant l'autre, mais c'est un peu comment se lâcher pour marcher.
Pour marcher.
Il y a plusieurs choses. C'est la marche sur le long, le temps long, la marche de longue durée, quand on part pour plusieurs jours, qu'on porte son sac.
C'est ça.
Et puis qu'on.
Avec peu de choses dedans, quand même.
Avec peu de choses dedans, on essaye en tout cas.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et on vous écoute, Kaya Guner et Béatrice Béguin.
Béatrice Béguin, bonjour. Nous avons 2 minutes pour faire connaissance. 2 minutes, c'est une goutte d'eau. Dans la mer, je devrais dire plutôt de sueur, sur le chemin de Saint-Jacques. On va essayer de faire ça au mieux. Ça marche pour vous?
Ça marche.
Voilà. Béatrice Béguin, c'est drôle, vous avez les mêmes initiales que des gens célèbres, un bébé comme Basile Boli.
Basile
Boli. C'est incroyable, un grand sportif, footballeur français, joueur de l'Olympique de Marseille et de l'AJ Auxerre. En tant qu'administratrice de l'Élysée à Lausanne et de la collection de l'Art Brut, vous aimez le football?
Non, pas vraiment.
D'accord, ok. Avec les initiales bébés, on a aussi Björn Borg. Vous aimez le tennis? Un peu plus déjà. La raquette, la petite balle, tout bon, ça, c'est, non? Non, ok, d'accord. Plutôt que le foot, non? Ok, d'accord. Alors, c'est quoi que vous aimez dans le tennis? La raquette, l'ambiance, la hola? Non. Ok, d'accord, je laisse tomber le sport. Et vous qui n'êtes pas du tout tennis, avec bébé, on a encore Boris Becker. Hein? C'est, ça tombe bien. C'est à choisir entre Boris et Bjorn, vous prenez lequel?
Bjorn.
Pourquoi?
Des vieux souvenirs.
Est-ce qu'il s'en rappelle? C'est la question. Vous dites de vous que vous n'êtes pas une grande sportive, mais que vous êtes tenace, que vous êtes comme un chien qui ne lâche pas son os.
Je confirme.
Ouais. D'accord, attends, je me retire un peu. Alors, j'aurais une question. Vous n'êtes pas très sportive, mais apparemment, vous êtes déjà tapé le chemin de 1500 kilomètres, c'est ça? En un coup?
Plus.
Oui, non, mais la première fois, c'était 1500 kilomètres. Quand ils vous ont arrêté à la douane, qu'ils ne vous ont pas laissé passer.
Oui, 1200.
1200, ok, 300 de plus pour moi. Vous avez été refoulé à la frontière espagnole.
En fait, la frontière était fermée, on ne pouvait plus passer.
Ah d'accord, et puis vous n'avez pas votre passe Covid. Donc...
Même avec, pas... avec passe Covid, ce n'était pas possible. Et toutes les auberges
étaient fermées. Vous avez... Et comment vous avez fait? Vous êtes revenu?
Eh bien, je suis revenue.
Donc pris... vous avez fait combien dans l'autre sens? 1200 aussi?
Alors, je suis rentrée en train. J'ai pas.
Ah, la petite joueuse. Okay, ouais,
petite, vous avez raison, petite okay. joueuse.
Okay. Oui, en tout cas, vous devez avoir de sacrés mollets. D'ailleurs, c'est ce que vous préférez au petit déjeuner, ce sont les œufs mollets, c'est ça? Et votre auteur préféré, c'est Molière. Molière. Okay, d'accord. Dans les initiales B, on a aussi Bernard Billier, Buffalo Bill, Bernard Buffet, qui est un de vos peintres préférés. Parce qu'en tant qu'adjointe aux arts visuels de la ville de Lausanne, vous avez souvent été invitée aux premières, et qu'ensuite il y avait le buffet.
Le buffet, absolument. Voilà. Toujours comme, apprécié.
Comme Bernard. Aujourd'hui, vous présidez les Amis du Chemin de Saint-Jacques. Ça commence à marcher pour vous, comme on dit, c'est ça? C'est un peu ça?
Okay. Ça marche toujours.
Est-ce que vous avez une coquille Saint-Jacques en pendentif?
Oui.
C'est vrai? Vous l'avez sur vous? Elle est petite. Et puis elle est transparente. Ouais, vous faites partie de la confrérie de l'association, c'est ça?
Et qui porte la coquille et
oui.
tout? Oui, bien sûr.
D'accord. Alors juste une dernière question qui me tire le pin. Une fois qu'on a fait le chemin de Jacques, qu'on est arrivé au bout du bout à Santiago, la cathédrale, le tombeau, les merveilleuses reliques, c'est gratifiant. On peut dire que je l'ai fait, on voit la vie différemment. L'immersion en soi, la nature, tout ça, recueillement extrême. Mes questions, comment est-ce qu'on fait pour rentrer? Vous me l'avez dit, vous rentrez en train, c'est ça?
Oui, on prend son temps. C'est beaucoup mieux que de rentrer trop vite en avion.
D'accord, il y a des navettes, il y a tout. Enfin,
il y a tout ce qu'on veut, il y a les bus, les trains, etc.
Donc ça vaut le coup de faire le voyage à l'envers aussi?
On peut, si on a le temps. Je pense que c'est pas mal. Il y a certaines personnes qui le font.
Oui, j'allais dire, est-ce qu'on peut faire le chemin dans l'autre sens? Oui, on peut. Oui. On peut le faire dans n'importe quel sens. Quoi.
Bien sûr.
Donc c'est possible. Ouais, d'accord.
C'est possible.
Ok, bon, on verra ça. Béatrice, je suis Béa devant vous. Et pour vous, j'ai le Béguin. Béatrice Béguin, bienvenue au Décodeur.
Ouais.
Merci.
Voici une expression, Béatrice Béguin, en swahili, langue bantoue d'Afrique de l'Ouest. Mais vous connaissez peut-être quand même cette expression. Que signifie l'expression « Hakuna Matata » rendue célèbre par le film d'animation « Le Roi Lion », c'était en 1994. Déjà, d'honneur, comme le temps passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Laura Chénia, première.
Le Roi Lion, donc, l'histoire de Scar, le lion qui assassine son frère pour prendre son trône. Et Hakuna Matata, ça veut dire « Tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux.
» C'est bien ça. C'est une image c'est assez claire. Ok, pour qu'il y ait du nerf, c'est autre chose.
Alors l'expression Hakuna Matata n'a rien à voir avec Matata, ni même avec mon tonton, et encore moins avec le présentateur de « Touche pas à mon poste », Cyril Hakuna, dont on a Hakuna rien à faire. Non, l'expression Hakuna Matata, dont les initiales ont été reprises par un célèbre magasin de vêtements pour lui porter chance, Hakuna et Matata signifie « c'est écrit dans le ciel ».
Ouh là, là, on reste un petit moment pensif, le temps que j'écrive. Et puis on écoute Marc Tonnemonnet.
Hakuna Matata veut dire « il n'y a pas de problème ». Pas de problème. Aujourd'hui, on dirait « pas de souci ». Il y a plein de gens que ça énerve, l'expression « pas de souci » qui est utilisée tout le temps maintenant. Alors, ce n'est pas mon cas, parce que moi, je suis très tolérant, hein. Donner monnaie. mais c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, cette expression. D'ailleurs, je suis allé au restaurant il y a quelques temps. J'arrive, je dis bonjour, j'ai réservé une table. Et la nana me répond, pas de souci. Je lui dis, mais j'ai pas dit que j'étais inquiet. J'ai dit, j'ai réservé une table. Parce que pas de souci, quand tu dis j'ai réservé une table, c'est un peu comme si on te répond, oui, tout va bien, monsieur, calmez-vous. Mais je suis calme. Non, non, je sens que vous êtes tendu. Respirez, tout va bien se passer. Vous voulez qu'on appelle une ambulance ? Donc, proposition, au lieu de dire pas de soucis, dites plutôt « Hakuna Matata ». Voilà. Au lieu de me faire croire que je suis inquiet alors que je viens vous donner du travail. Voilà.
D'accord, c'est noté. Calmez-vous, respirez. Pascal Vincent, dernière réponse.
Jumbo, Jumbo Buanam, Tsurisana, Hakuna Matata.
Ah, c'est ça ? Voilà. La totale.
Je parle couramment le Swahili.
Bien, pas mal.
Depuis mon voyage au Kenya, c'est mon tout premier voyage, où mon premier repas, c'est véridique, arrivé au Kenya, mon premier repas au restaurant de l'hôtel fut un consommé à la baloise et des cannelloni. Si ça, ça dépayse pas, comme premier voyage, j'en ai pris plein les yeux. Non, mais c'est vous dire, si cette question est simple pour moi, la réponse surtout. En swahili, Hakuna Matata signifie tout simplement, et Kaya n'était pas très loin, ça signifie tout simplement ma tante Hakuna. Ce qui est à peu près l'équivalent de chez nous et ta sœur.
Ah, c'est ça. Ah, d'accord.
Ma tante Hakuna, voilà.
Vas-y, et ta sœur.
C'est genre, mais et ta sœur. Ah oui.
Ta sœur.
Ok, très bien. C'est à vous, évidemment, de trancher, Béatrice Béguin. Et je répète toutes les possibilités. Expression en swahili, Hakuna Matata, rendue célèbre par le roi Lion. Alors, pour Laura Chénia, tu veux t'asseoir sur le trône ? Tu t'assois sur mes genoux. J'aime assez bien.
Et ta sœur.
C'est un peu dans cet esprit. Kaya Guner nous dit « Hakuna Matata » signifie « c'est écrit dans le ciel ». C'est ton destin, tout ça. Marc Donnet-Monnet, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions, tout ça. Ouais. Et pour Pascal Vincent, « Hakuna Matata » signifie « ma tante Hakuna », ce qui est l'équivalent chez nous de « et ta sœur ». Elle bat le beurre, tu vois, je veux dire, c'est ça.
Ou elle
ça,
fait le consommé baloise.
Si, ouais. Si on veut. Donc...
Il y a beaucoup d'histoires de famille, mais je vais plutôt prendre l'écriture dans le ciel, donc Kaya.
Kaya Guner.
C'était beau.
Ah ouais. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont pensé, mais oui, c'est ça. Non. Ah non, vous saviez, dans la salle. Tous.
La tante Hakuna, tout le monde pensait ça.
Mais oui, tout à fait. Pascal Vincent, Marc Donnet-Monnet, bien sûr. Non. Hakuna Matata veut dire « il n'y a pas de problème ». Sous-entendu, il n'y a que des solutions, on va trouver. Quoi.
Non, mais quand tu passes ton temps à marcher, tu n'as pas le temps de regarder des films aussi. Hein.
Oui, mais tu te rends bien compte qu'il n'y a pas de problème quand tu marches. Tu dégages.
Exactement.
Les sinus et la tête, etc. Ça fait du bien.
Et, bon. Et je précise que moi, c'était une citation de Booba.
Ah,
si jamais.
Ah,
ouais. Tu veux t'asseoir sur le trône, il faudrait t'asseoir sur mes genoux.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Et je précise que le consommer à la baloise et les cannelloni, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais est-ce que c'est bon?
Là-bas, oui, c'est un peu moins bon.
Mais vous êtes une chippie, c'était par défi de manger
pas
ça.
Pas du tout, c'était un hôtel suisse, en fait.
Qui vous proposait.
Ouais, tout le monde parlait allemand, je suis revenu, ouais, je d'accord. Parlais allemand.
Bon, Béatrice Béguin, vous laissez filer un point. C'est pas grave, le public est avec vous, vous en avez déjà trois. Donc
je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. L'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires, les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, nuit passe inhabitée. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde saura remplacer. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages. Mes jours d'aéroport. De mon village sans à l'heure. Où les docteurs greffent les cœurs. Où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Mon amour.
Voyons ici, Béatrice Béguin, ce qu'est la chourbe. La chourbe. C'est pas un mot que j'invente, quoi. C'est rigolo, chourbe. Non, mais non, oui, je suis sûre. Il y aura une bonne réponse parmi les quatre. Peut-être celle de Caïgunet. On va voir.
Alors, là, oui, c'est la bonne. La chourbe est le nom donné au couvre-chef qui se porte sur le melon par les adorateurs du fruit lors du carnaval de Cavaillon-Kong. C'est un mélange de tourbe et de chou que l'on sculpte, amène la tête et qui se défait uniquement le soir lors du bain dans le célèbre gouffre de Fontaine de Vaucluse. Malheureusement, cette année, il y a un pépin. Il faudra garder la chourbe sur le melon car le gouffre est asséché suite aux conditions.
Ah oui, 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 ben, voilà. Ouais. Moche. On gardera
c'est moche, mais ouais, ça fait lourd sur la tête. Mais
jusqu'à l'année prochaine, du coup.
Bah, si ça reste collé, ouais.
Ah ouais, 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 c'est ça. Ok, c'est une façon de voir la chourbe. Laura Chénia propose autre chose.
Alors, sur le littoral de la Manche, il y a un bled qui s'appelle Saint-Père-sur-Mer. J'ai découvert. Sauf un jour dans l'année, à la fête des mères, où c'est les mères qui sont enfin dessus. Quant à la teneur de la sainteté, comme c'est pas très catholique cette histoire, laissez-moi sans transition continuer sur le chemin qui nous intéresse. Ce qu'on y mange, de la moule, bah oui, c'est le littoral, et de la chourbe, qui est une plante, voilà, qu'on surnomme aussi le chou marin. Alors moi, j'adore la chourbe, hein. J'adore. J'ai jamais goûté, mais j'aime tout ce qui se mange. Au pire, j'y pose deux vinerlis, un coup de maillot, je vous fais une chourbe croûte, Béatrice.
Voilà. Les affaires de la mer, ça a un goût de... Ah bah oula, j'avais écouté, d'accord. La chourbe, pour Pascal Vincent, qu'est-ce que c'est ?
La chourbe était une danse paysanne pratiquée par les jeunes célibataires en quête de mariage durant les bals de village. Une danse qui se pratiquait à deux, face à face, très proches l'un de l'autre, où il fallait taper des pieds très vite et très fort de façon aléatoire. Un coup ici, un coup là, un coup... Eh non, c'est une feinte. Un coup là. Aïe. La convention était que l'homme se devait de danser la chourbe pieds nus. Alors que la femme chaussait ses gros sabots, qu'on appelait des chourbes comme par hasard.
Ah ouais.
C'est comme ça qu'on les appelait. Un homme capable de danser trois chourbes consécutives sans se plaindre de la douleur engendrée par l'explosion de ses orteils et des coups dans les tibias,
aïe.
Pouvait être sûr d'avoir trouvé la femme de sa vie et vice versa. Quand on vous dit que c'était mieux avant.
Il y a tout ça se discute toujours, tout ça. Ok, ça fait trois réponses. La quatrième et dernière est signée Marc Donnet-Monnet.
La chourbe, c'est un nom qui fait un peu paysan, je trouve ça. La chourbe, c'est un nom, la chourbe. Oh, la chourbe, c'est quand la pluie pendant des semaines, après la terre est toute trempée, toute grasse, et puis les épis qu'on a mélangés avec la terre, puis les crottes des animaux, le bestiole, tout ça, puis le maïs, les herbes, tout séché, ça fait la chourbe.
C'est ça.
Oh, puis la chourbe, tu peux pas t'en marcher dedans, tu mets les bottes, ça fait tchouf tchouf, faut attendre pendant que ça sèche, puis les gamins vont jouer dans la chourbe, après ils rentrent, il faut les passer au jet, après tout en bas de joufler, les habits, il y en a partout, non, tu ouh, la chourbe.
Voilà. Hey, t'es très sexy quand tu parles, pas
merci.
Toi.
Merci, ah bah je parlerai dorénavant plus souvent, le pas.
J'adore.
C'est l'accent paysan ou canadien, là, j'ai pas.
Un mélange, c'est
Hakuna
du Donnet-Monnet.
Matata.
Surisana.
Bon, alors la paysan, c'est quoi, c'est la papoche?
Non, je la explique. Papote,
ouais. Ouais, c'est ça un peu, d'accord. La chourbe. Ok, donc la chourbe. Nous avons de la papote, donc ça, du côté de Marc Donnet-Monnet, Béatrice Béguin. Pour Pascal Vincent, la chourbe, c'est une danse paysanne aussi. Jeune célibataire, en quête de mariage, les hommes sont pieds nus, prennent des risques, et les femmes ont leurs sabots chourbes, justement, aux pieds,
et puis on les venge.
Et puis, voilà. Ouais. Un coup par-ci, un coup par-là.
C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, c'est parce que naguère.
Ouais. Mais le but, c'est peut-être pas d'écraser le pied de l'autre. C'est,
ah non,
c'est,
mais
faut
c'est
l'éviter.
Justement
ouais,
le
d'accord.
Faire, voilà. Le but, c'est de passer trois danses consécutives.
Laura Chénia nous dit que la chourbe, bah, c'est une plante marine, un chou marin, vous nous dites. Mm-hmm. Et pour Kay Gunner, la chourbe, c'est un couvre-chef. Fait en tourbe et chou.
Ouais,
voilà,
tourbe
c'est
et
ça exactement.
Ouais.
Alors, il y a un truc qui m'a échappé, c'est les adorateurs du melon. Ou bien non, c'est les adorateurs du chapeau.
Non, non,
quoi.
C'est à Cavaillon que ça se passe. C'est pour.
Ah ouais, c'est ouais. Ça. Donc c'est bien les melons.
Exactement voilà. Les melons.
D'accord, c'est lié aux melons quand même. Elle est très concentrée. Elle a fait un tableau.
Attention, Béatrice.
La marcheuse là, bim, 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 les noms craquent des petites croix.
Sont ah, les... Des ah, petites ouais. Feuilles.
Ah, ouais. Et vous, Béatrice, peut-être qu'on vous fait marcher. Voilà, c'est
elle
placé.
Elle est venue pour ça. Hein, elle est venue pour ça aussi.
Ça m'empêche pas.
Et elle est le cours.
Alors vous hésitez entre quoi là, entre deux ou entre quatre?
Non. J'hésite entre Laura et Marc.
Ouais. Alors, la bonne réponse y est.
Je prends Laura.
Laura Chénia. Eh oui. Ben oui, absolument. Appelée également chou marin, la chourbe. C-H-O-U-R-B-E. Hein. La chourbe est une plante comestible qui a en partie disparu de son aire naturelle le long du littoral européen. Son aspect fait penser, mais écoutez bien, parce que alors ça c'est un mélange assez astucieux, un mélange de rhubarbe et de chou, mais sous l'eau donc a priori. Elle est cueillie et consommée depuis la préhistoire. Ben voilà, on n'est plus dans la préhistoire là, on est en train de... Voilà, il n'y a plus de chourbe. On dit aussi crambé maritime. Parce que crambe, en grec, c'est le chou. Non, c'est pour dire qu'elle a trois noms et puis qu'elle est en train de disparaître, cette plante. Mais moi, j'aimerais bien goûter de la chourbe. J'aime beaucoup la rhubarbe. Mais rhubarbe-chou, j'ai un petit doute.
Oui, hein c'est
quand même. Oui. Enfin bref. Bon, en ce qui vous concerne, Béatrice Béguin, vous avez gagné le quatrième point. Il faut que nous saluions. Évidemment, extrêmement bien. Alors, vous êtes une marcheuse, vous êtes une accompagnatrice de marche, de randonnée, Béatrice Béguin. Quelle est votre définition de la marche?
Alors bon, ben, mettre un pied devant l'autre, ça coule de source. Après, on peut avoir des marches sportives, des marches qui représentent un défi de compétition. Et puis il y a toutes ces marches plus contemplatives, dont celles qui me plaisent sur les chemins de pèlerinage. Je pense qu'on a des objectifs très différents entre les deux.
Donc c'est pas que les pieds qui fonctionnent, là, c'est la tête aussi dans ces cas-là.
C'est la tête, ouais, le cœur, on va dire aussi.
Et vous regardez où?
On regarde au loin.
Ouais, on regarde
loin.
Pas ses pieds, on regarde pas le chemin. Ça
on
dépend
du
chemin.
Du chemin, plutôt ouais. L'horizon.
Moi, j'aime bien regarder l'horizon, regarder là où on passe. Hein, quand on traverse des forêts, quand on traverse des beaux paysages, tout devient des endroits, des espaces où poser les yeux.
Et ce sentiment de bien-être, cette extase, c'est au bout de combien de kilomètres?
Oui, il faut un petit moment hein, pour que.
Mais je crois qu'il faut quelques jours.
Ah parce ouais, que moi, des fois, je descends à la COP, et moi, c'est pas très loin. Il me semble toucher à l'extase, mais je me demande si c'est en rapport avec quelque chose de sacré ou pas.
Pas encore, ouais.
T'es un poète.
Quoique.
Ça doit être ça. Ouais.
Peut-être, moi, peut-être. Je me demande, quand on est marcheuse professionnelle, est-ce qu'on arrive encore ensuite, dans son quotidien, à marcher main dans la main avec quelqu'un d'autre? Ou tout le monde est décevant?
Non, au contraire.
Déjà qu'à la base... Ouais. Mais vous êtes combien quand vous marchez?
Alors, moi, quand je prends des groupes et que j'organise des randonnées, en général, c'est des groupes entre 8 et 12 personnes, donc relativement petits groupes.
Et vous, aussi pour avoir des... vous marchez devant, vous montrez le chemin
ou bien alors, c'est... Au début, oui, en tout cas.
Ouais, et après, vous êtes...
Après, je pousse.
Est-ce qu'on va devant ou derrière pour pousser un groupe qui est trop lent?
On va aller plutôt derrière.
Est-ce que les gens qui font du Nordic Walking vous énervent?
Ah non,
pourquoi?
Non, parce qu'ils en font avec vous ou pas?
Alors,
c'est permis de venir avec des cannes pour faire la marche.
Alors, il y a beaucoup de gens qui marchent avec des bâtons.
Ah ouais.
Par contre, c'est pas le même rythme. Hein.
C'est pas le même rythme. Ah non. C'est sportif.
C'est quoi le meilleur bâton
pèlerin qui est poussé, tendu
en 2023?
Le bâton de pèlerin.
Vous n'avez pas un bâton, enfin, qu'est-ce
un truc de compète. Hein, ouais.
Il y a toutes sortes de styles. Il y a les bâtons de randonnée, voilà, les vrais bâtons, enfin, comme on les trouve actuellement, qui sont très légers, qui peuvent être télescopiques, etc. Et puis, il y a des bâtons plus traditionnels, qui sont en bois, qui peuvent être sculptés. Il y en a certains qu'on peut acheter ou trouver dans les forêts ou acheter sur les chemins.
Ça, c'est des bâtons de glace.
C'est encore une chose, ça. Qu'on peut manger voilà, en marchant peut-être. Je vous signale aussi que il y a en ce moment, au moment où on parle, des personnes dans ce pays, la Suisse, qui marchent sur la Via Jacobi. C'est Via Jacobi 23 qui a commencé le 3 juin, qui va se terminer le 23, 21 étapes. Et toutes les étapes sont sur le site Via Jacobi 4.
Annonce routière, des personnes sont sur l'autoroute Genève.
Alors, c'est pas le bon chemin, certainement. Voilà qui est dit. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin de la première journée de jeu, déjà, tranquillement.
Ça va vite.
Ça va très, très vite. Eh bien, voilà, 4 points pour vous, Béatrice Béguin. C'est pas vraiment ça qui compte, mais en même temps, vous saurez que les points que vous attrapez, ils sont là pour toute la vie avec vous. On se retrouve à Villars-sur-Glâne, dans ce domaine de la Dame de la Route, demain pour le suite de nos jeux. Belle suite de lundi à vous toutes et tous. Ciao.
La première vous offre l'heure.
Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, bon début de journée, de semaine surtout. Vous écoutez bien La Première, c'est la matinale qui vous parle et il est 6h.